Bonsoir à tous, effectivement, France Bleu Soir. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est Laurent Petit-Guillaume qui vous accompagne, qui vous accompagne jusqu'à 20h. Ne vous inquiétez pas, Arnold de Derek va très très bien. Il est toujours à Bordeaux, nous l'aurons au téléphone avant 20h, en direct des coulisses du dernier concert des Enfoirés. Notre invité dans un instant, c'est Annie Dupéré, on va parler d'elle et de ses photos, bien sûr. Mais tout de suite, le journal de 19h présenté par Frédéric Dorel. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
La première tempête hivernale de l'année est attendue demain par l'Ouest.
Et elle devrait recouvrir l'Île-de-France de neige mercredi matin. France Bleu Isère émet à nouveau après l'incendie de ses locaux. Cette nuit, les équipes sont hébergées par France 3 Alpes. Le directeur de France Bleu, Jean-Emmanuel Casalta, nous appellera de Grenoble. Un record vieux de 5 ans vient de tomber sur les routes. 3259 tués l'an dernier. La mortalité n'a jamais été aussi basse. Nous serons en direct avec le délégué à la sécurité routière, Emmanuel Barbe, pour en parler.
Les patrons quittent les négociations sur l'assurance chômage.
Ils n'apprécient pas du tout qu'Emmanuel Macron opte pour la limitation des contrats courts. La marge du président se rétrécit un peu plus, nous dira Nicolas Ballu. Les premières feuilles de paye avec prélèvement à la source, nous irons à Châteauroux. Les deux ours femelles lâchées dans les Pyrénées en octobre, eh bien figurez-vous qu'elles sont entrées en hibernation. Et puis votre invitée ce soir, Laurent, Annie Dupéré.
Ah, effectivement, elle n'hibère de bas puisqu'elle est avec nous dans le cœur et la mémoire du public. Elle a acquis une place à part, le théâtre, le cinéma, la télévision, la littérature, ses passions, ses combats. Elle les partage avec talent, une force de caractère qui nous touche depuis longtemps. C'est une de ses passions qu'on va partager ce soir, la photo. Eh ouais, la photo avec elle. C'est aussi une façon de raconter une histoire, la sienne. Annie Dupéré est avec nous jusqu'à 20h. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Un petit pipi et on revient, d'accord?
D'accord.
À tout de suite.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Laurent Petit-Guillaume. Frédéric Dorel.
Une histoire incroyable pour commencer. Deux retraités américains ont gagné des millions de dollars à la loterie grâce à une faille.
9 millions de dollars exactement, soit presque 8 millions d'euros, simplement parce que Jerry a trouvé l'algorithme de la loterie. En toute légalité, il s'est donc fait beaucoup d'argent pendant 9 ans, Mélodie Pépin.
Oui, je vous présente Jerry et Marge, un couple très ordinaire mais plutôt obsessionnel, vous allez comprendre. En 2003, Jerry repère une faille dans la nouvelle loterie locale. Jerry qui est quand même très matheux, il faut le dire. Bref, il se rend compte que s'il achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de tickets, il peut sortir gagnant. Avec sa femme, il passe donc des journées entières à imprimer des milliers de tickets qu'il faut ensuite éplucher le soir devant la télé. Parier devient une petite entreprise avec la famille, les amis, jusqu'à ce que le jeu s'arrête dans le Michigan, mais il existe dans le Massachusetts à plus de 1000 km de là. Ça ne freine pas Jerry et Marge qui font les allers-retours en voiture pendant 6 ans. Au total, 18 millions de tickets achetés, tous conservés dans des bacs en plastique dans le garage. Alors avec ces millions, qu'ont-ils fait? Eh bien pas de croisière, pas de voiture de sport. Ils ont financé les études des petits-enfants. Une histoire qui va encore leur apporter de l'argent puisqu'Hollywood a acheté les droits pour en faire un film.
Merci Mélodie Pépin. Tous les détails de cette histoire, toutes vos infos sont sur notre site internet francebleu.fr.
Attention pour demain soir et mercredi matin, une tempête hivernale va arriver par l'ouest.
Météo France annonce des vents violents jusqu'à 130 km/h et de la neige sur la côte atlantique dès demain après-midi.
Et cette tempête sera sur la région parisienne, alors dans la nuit de mardi à mercredi.
Résultat, l'Île-de-France repeinte en blanc mercredi matin avec 5, 10, voire 15 cm attendus. Les conditions de circulation seront très compliquées si c'est vraiment ce qui se produit. Là aussi, tout est sur francebleu.fr.
Allez, on va maintenant à Grenoble. Vous le savez, notre radio France Bleu Isère a été partiellement détruite par un incendie la nuit dernière.
Incendie criminel, hein, selon toute vraisemblance. Mais qu'à cela ne tienne, l'antenne est rouverte depuis 17h.
Bonjour à tous. Difficile de vous dire à quel point nous sommes tout à la fois heureux de vous retrouver. Et
voilà, les premières secondes d'antenne donc à 17h en direct de France 3 Alpes. Jean-Emmanuel Casalta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de France Bleu et vous êtes à Grenoble. C'était important de réémettre très vite.
C'était essentiel de réémettre très vite. C'était essentiel de montrer que, après le drame que nous avons vécu cette nuit, cette radio qui a perdu sa voix vers 2h30 du matin, que cette radio, d'abord à travers ces journalistes qui ont fait un travail d'information via les ondes de France Bleu Pays de Savoie qui ont été mises à disposition des habitants de l'Isère dès le matin, et puis ensuite à sa propre voix, c'est-à-dire celle de France Bleu Isère à partir de 17h, a repris son activité et a assuré sa mission de continuité de service public de l'audiovisuel de proximité.
Et donc dans les locaux cette fois de France 3 Alpes, l'idée est venue très vite d'installer les équipes de France Bleu à France 3, c'est la solidarité du service public ?
Je dirais que c'est même la solidarité de l'ensemble du secteur des médias. Nous avons été l'objet de d'innombrables messages de soutien.
C'est vrai.
Les équipes de France Télévisions, les équipes de France 3 en particulier, se sont également manifestées pour nous indiquer qu'elles étaient en capacité de nous offrir un accueil dans leurs locaux ici à Grenoble, le temps que nous puissions trouver une solution plus pérenne. Et nous avons accepté avec enthousiasme. Les équipes techniques de France Bleu ont réalisé des miracles techniques pour faire en sorte que quelques bureaux vides, on fasse renaître la voix d'une radio au service de ses auditeurs.
Merci Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu. Les travaux à France Bleu Isère devraient prendre de longues semaines. Hein. Reste à savoir qui sont les incendiaires. D'autres feux sur des bâtiments publics et une entreprise de travaux publics ont été revendiqués ces deux dernières années à Grenoble par l'ultra-gauche.
Il n'y a jamais eu si peu de morts sur les routes françaises. Hein. 3259 tués, c'est 9 vies épargnées par rapport au précédent record qui était vieux de 5 ans.
Et alors entre-temps, les chiffres étaient remontés. C'est une bonne nouvelle donc, même si plus de 3000 morts en 12 mois, ça reste terrible.
Oui, c'est ce qu'on peut regretter aussi, c'est que le sujet soit devenu aussi politique.
Avec la mise en place des 80 km/h en juillet, on ne peut plus parler de mortalité sur les routes sans déclencher une polémique. Les chiffres même sont regardés avec soupçon de la part de certains opposants. Emmanuel Barbe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le délégué interministériel à la sécurité routière. Dans ce contexte, vous êtes dans quel état d'esprit ce soir ? Fier de ces résultats ?
Oui, bien sûr, et surtout soulagé pour tous ceux qui sont victimes des accidents de la route, qu'il y en ait eu moins, mais vous rappeliez très bien qu'il y en a encore beaucoup. Il y a près de 9 personnes qui meurent tous les jours en France sur les routes, et c'est encore trop. Mais c'est vrai que c'est une très grande satisfaction, une très grande fierté d'être parvenu à ce résultat. Il faudrait juste être certain qu'on peut continuer, et c'est pas évident parce que les radars ont beaucoup été abîmés. Et de fait, les vitesses remontent, et ça provoquera immanquablement des morts de nouveau sur nos routes.
Ça, vous l'avez compté également ?
Oui, on estime, c'est une estimation bien évidemment, mais que ça représenterait en novembre et en décembre environ 30 morts par mois, donc 60 vies humaines qui auraient pu être épargnées, parce que ce qu'on peut mesurer très clairement, c'est notamment en décembre, le nombre de flashs a augmenté par 4 parce que les radars n'envoient plus de photos, et donc quand on passe devant, on accélère. Donc vous savez, c'est pas une opinion ni une religion, c'est-à-dire que dès que la vitesse augmente sur les routes, il y a plus d'accidents. Ça s'observe dans tous les pays, c'est une loi de la physique en quelque sorte.
Et vous êtes convaincu que aller contre cette mesure, ça se paiera en mort ?
Écoutez, je suis pas un perdreau de l'année. Je connais le débat politique autour de cette mesure. Donc moi, je voudrais pas entrer dans cette polémique. Une chose est certaine, c'est qu'il faut veiller à ce que les vitesses ne repartent pas à la hausse. Pour le reste, il y a un débat, il y a des décisions politiques, et très franchement, ça dépasse mes propres capacités que de discuter de ça. Je suis juste fier pour cette année, 189 morts de moins. Imaginez le moindre événement qui causerait la mort de 189 personnes, et ben il y aura un émoi mondial. Ben là, on a évité cette catastrophe, et donc c'est plutôt positif. Oui.
Et puis tous les indicateurs, les autres indicateurs sont en baisse, le nombre d'accidents, le nombre de blessés, le nombre d'hospitalisations aussi. Merci Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, et bonne soirée à vous.
Merci à vous aussi.
Les Gilets jaunes préparent déjà l'acte 12 de samedi prochain.
Avec la ville de Tours, cette fois pour point de ralliement dans tout le Grand Ouest, comme Bourges l'a été il y a 15 jours, les organisateurs attendent 6 à 10 000 personnes.
19h passées de 9 minutes, le prélèvement à la source, c'est l'heure de vérité. Pour 25 millions de salariés, nous irons à Châteauroux voir comment ça se passe, comment se passent les choses.
Oui.
Les deux ours femelles lâchées cet automne dans les Pyrénées ont commencé à hiberner, ça doit être normal. C'est quand elles sortiront qu'on saura si elles attendaient des petits oursons. Mais d'abord, patatras, dans les négociations sur l'assurance chômage, les organisations patronales claquent la porte.
Les trois, hein, MEDEF, CMPE et UDP. Leurs dirigeants n'apprécient pas qu'Emmanuel Macron se dise déterminé à mettre en place le bonus-malus pour que les entreprises n'abusent pas des contrats courts. Nicolas Ballu, voilà donc les patrons fâchés à leur tour.
Oui, mais il ne devrait pas terminer sur les ronds-points. Il y a deux logiques parallèles. Celle des négociations sur l'assurance chômage. Au tout début de ces négociations, il y a 2 mois, le gouvernement a demandé aux uns et aux autres de se prononcer sur la régulation des contrats courts et sur le système de bonus-malus. Plus le taux de rupture de contrat de travail est élevé, plus les cotisations chômage de l'employeur augmentent. Ça, c'est le côté malus. Le patronat est contre, les syndicats pour. Et 2 mois plus tard, alors que la fin des négociations approche, ils en sont toujours au même point, c'est-à-dire presque nulle part. La petite phrase d'Emmanuel Macron permet donc de mettre la pression du côté des employeurs, puisque s'il n'y a pas d'accord, c'est l'État qui prend la main. Les patrons se disent « à quoi ça sert de négocier ? Touche pas à ma négo !» Une négociation qui ne se dénoue jamais avant la dernière heure. Les patrons ne veulent pas faire les frais d'une autre logique à l'œuvre, la logique « gilet jaune et grand débat ». Le bonus-malus, c'est une promesse du candidat Macron, attendue par les syndicats de salariés, et c'est pour les chefs de l'État une manière de se montrer plus social au moment où c'est une nécessité politique.
Merci Nicolas Ballu.
À Niort, les salariés de la Massif sont choqués par l'augmentation dont bénéficie leur patron.
Alain Montaran passe de 160 000 euros par an à 260 000, plus de 60% de hausse, alors que les sociétaires, comme on appelle les clients de la Massif, vont bientôt devoir payer plus cher leur mutuelle, et que d'après la CGT, les salariés eux vont devoir travailler plus et sans augmentation.
Le prélèvement à la source, c'est maintenant pour 25 millions de salariés.
Après les retraités et les indépendants, ils vont être fixés ces jours-ci. Certains viennent d'ailleurs d'ouvrir leurs enveloppes et sont allés chercher des explications à leur centre des impôts. Margot Steve, on peut dire qu'ils essaient de rester philosophes.
Et pourtant, en découvrant sa fiche de paie, l'effet a été le même pour tout le monde.
Ça fait quoi? Ça fait moins?
Alors oui, ça fait drôle, mais Michel relativise.
Ça fait un truc, mais je crois que c'est tout psychique. Mais ça change pas grand-chose.
Ça, c'est pour quand il n'y a pas d'erreur sur le taux de prélèvement, parce que quand Aurélia a vu son bulletin de salaire, ça a été la douche froide.
Moi, ils sont plantés déjà, donc je viens pour cela. Eh ben, écoutez, j'ai été prélevée à la source alors que je suis pas imposable.
Et c'est un gros montant ?
Près de 200 euros. C'est énorme, donc ça fait un sacré trou dans le budget mensuel, donc voilà, je vais faire ma requête aux impôts.
Même problème pour Claire, elle, c'est 20 euros, mais elle ne se fait pas trop de soucis.
Je pense pas que ça va être compliqué, c'est une erreur de leur part, donc je pense qu'ils vont rectifier tout ça.
Des couacs assez rares, d'après Marie Yvonne Desbois, directrice des finances publiques dans l'Indre. D'après elle, c'est surtout un effet psychologique.
Il y a des craintes toujours, mais ça, c'est pas lié au prélèvement à la source, c'est historique, c'est dans l'ADN. Les personnes ont envie de payer le juste montant, hein, mais c'est une des dimensions des réponses qu'on peut apporter aux contribuables.
Et sachez qu'en cas de problème, un numéro vert est mis en place depuis le 1er janvier, c'est le 0809 401 401.
0809 401 401. Et si vous avez modifié votre taux de prélèvement, sachez qu'il faut attendre 2 mois avant que le nouveau taux s'applique sur votre bulletin de salaire. Margot Steve, France Bleu Berry.
Le gouvernement lance un vaste plan pour l'enfance en danger.
Des bébés secoués aux enfants martyrs, en passant par ceux qui sont tués parce que leurs parents se séparent. Le nouveau secrétaire d'État veut faire plus de prévention en agissant dès la maternité. Mais il veut aussi mieux former les professionnels de l'aide sociale à l'enfance.
Une nouvelle évasion de détenus à Tarascon cette fois-ci.
Dans les Bouches-du-Rhône, 2 hommes lourdement armés ont tendu un guet-apens au gardien qui accompagnait ce détenu pour une audience au tribunal. 2 des 3 surveillants sont blessés.
Allez, plus bucolique maintenant. Alors, les 2 ours femelles lâchées en octobre dans le Béarn sont entrées en hibernation.
L'une en France, l'autre en Espagne. Nicolas Alban, agent de l'Office de la chasse, est chargé de cette réintroduction qui fait toujours polémique.
C'est un peu tard. Il est vrai qu'on a des ours dans les Pyrénées qui peuvent rentrer en tanière dès la mi-novembre. On attendait d'être bien sûr qu'elles soient en tanière pour le dire. Il nous faut en effet récolter quelques données de position avant de pouvoir dire qu'elles ne bougent vraiment plus et qu'elles sont endormies. Caverina est sur le territoire espagnol, pas très loin de la France, mais sur le territoire espagnol de l'Aragon. Sorita est dans le département des Hautes-Pyrénées. Le but, c'est quand même pour la sécurité de tout le monde, des ours comme des usagers, de garder la confidentialité de ces données pour ne pas avoir de problème de sécurité. Au printemps, on fera une surveillance un peu plus active pour surveiller la sortie de tanière, qui est une période un un peu délicates où elles sont un peu fragiles. Et c'est à ce moment-là notamment qu'on va savoir s'il y a des oursons. Donc c'est une période importante pour nous.
Et oui, il faut attendre pour savoir. L'agent chargé de la réintroduction donc des ours dans les Pyrénées, Nicolas Alban.
Et puis le projet de film sur la vie de Céline Dion avance.
Le tournage doit débuter en mars. C'est Valérie Lemercier qui en est à l'origine. Ah. Et c'est elle aussi qui incarnera la diva québécoise qui s'appellera Aline Dieu dans le film.
Ça plaît beaucoup à notre invitée, Annie Dupéré, parce qu'elle chante très très bien aussi. Vous savez qu'elle chante très bien, Annie Dupéré. Hein.
Ah,
elle chante, elle danse. Elle... Non, elle va peut-être pas reprendre la chanson de Céline Dion.
Non, pas tout de suite.
Elle a un autre répertoire.
Non, bon, très bien. Oui. En tout cas, ce film, voilà, on ne sait pas encore quand il sortira, mais il devrait s'appeler Famous.
Famous, oui, ça lui va bien.
Même s'il a déjà changé de nom deux fois, mais voilà, c'est très Famous bien. Pour l'instant.
Merci Frédéric Dorel.
De rien, Laurent.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez. Où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr.